Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 8 septembre 2012. Nos programmes pour cet après-midi à 13h30 du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie, à 15h du reggae avec Jah Not Dead et à 17h FMR, c'est de l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le journal régional que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end.
Donc sachez que Dusport n'a pas éteint son téléphone et qu'il a placé sa poche, un gros sac juste à côté du micro.
Voilà,
qui fait
donc
que chaque
on
fois
s'en
qu'il
fout,
farfouille, on entend des trucs comme ça, c'est super.
Dusport
a porté son
micro.
Pique-nique.
N'occupe pas de moi.
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geek. Avec du sport. Ultimatum. Das Creech. Et la participation exceptionnelle de JB.
Bonjour et bienvenue. Donc, il y a trois semaines, Dusport avait son téléphone, comme d'habitude, allumé. Et là, cette fois-ci, donc, coucou, Dus a oublié son téléphone et une feuille pour l'émission. C'est dur de vieillir. Hein. Bonne rentrée, madame. Sans compter que
c'est
si
signé,
tu plantes,
madame.
C'est signé. Voilà, oui. Et bien évidemment, si jamais Dus se trompe, il aura droit à de la vaisselle, hein, je crois.
Bah, c'est marrant, c'est le running gag, ça fait 9 ans que tu dis ça, mais c'est toujours pas sûr qu'il soit de corée vaisselle quand il se trompe. Au lieu de chercher les trucs dans ton sac, tu es corvée de vaisselle quand tu te trompes ou pas?
Non, pas du tout.
Ah bon, d'accord.
Je la fais de toute façon.
Bonjour et bienvenue. Comme Thomas l'a plus ou moins introduit, effectivement, on approche de la 9e saison du Super Weekend qui, théoriquement, devrait commencer avec l'ensemble de la radio au 1er octobre. Mais on a déjà le nouveau générique. J'espère que tu as corrigé la typo. Oui, non, parce qu'il a mis 8e saison, on a fait un générique en HD et tout, manière BFM TV, et voilà, juste une petite erreur et tout ça. C'est le numéro 321 et nous avons le plaisir, l'honneur et l'immense joie de recevoir des organisateurs d'un festival de films étrangers qui s'installe à Toulouse. Puisque j'ai vraiment, c'est un plaisir puisqu'on se connaît depuis un bail, J.O. qui est dessinateur de presse que j'ai connu à une époque où il s'était pas fait virer de la Dépêche, mais où il participait déjà au Satiricon. Tu sais qu'ils ont changé le veau sous la mer, il y a un nouveau directeur de publication, c'est Petit-Fils maintenant, t'as peut-être une chance.
Félicitations, bienvenue.
Voilà, donc J.O. qui est présent avec nous en tant qu'organisateur du Fifi Gros.
Oui, premier festival international du film groenlandais de Toulouse. Donc c'est un Fifi Gros avec un T à la fin.
Je te dis bienvenue, ainsi qu'à charmante jeune fille qui est venue nous rejoindre.
Sophie. Dis bonjour au monsieur.
Bonjour monsieur.
Voilà.
Sophie qui est libérée sur parole de Télérama.
La pauvre. Mon Dieu. Télérama.
Et JB n'est pas là.
Voilà, vous avez compris qu'on va faire une rentrée qui va bien chambrer comme chaque année. Donc, bien évidemment, on va parler du Festival international du film groenlandais qui a déjà eu lieu d'ailleurs par ailleurs et tout ça. Mais tout ça, on va le raconter. On a un hommage à...
De suite là ?
Non, on va pas le faire de suite parce que quand même le but du jeu c'est de libérer avant 13h puisque pour eux l'heure de la sieste est sacrée, tu sais, passer un certain âge. Non ?
Oula, ça balance.
Vous le sentez de rester jusqu'à la fin de l'émission à 13h30 là ?
Tu veux un blanc de combien au micro ? Continue.
On a de la revue de presse. Peut-être qu'on va commencer d'ailleurs par la revue de presse. On va commencer par la Vie des Bulles qui en est à sa 15e année puisque ça a été créé en 96 et c'est un immense bouquin.
Combien d'années hein
15e ou 16e.
Ouais, c'est une revue pour
c'est une revue.
Entérologue ? Non.
À peu près, puisqu'en fait, ils font la chronique exhaustive de toutes les BD qui sortent. Comme vous le savez, il y a 3500 nouveautés qui sortent par an en France. Et donc,
c'est le gros pavé là.
C'est le gros pavé, ouais.
D'accord. Ouais.
Non, pas le BDM, c'est le petit. Voilà, il sort dans une nouvelle maquette qui est au format comics. C'est surtout à destination, bien évidemment, des CDI, des bibliothèques, des libraires. pour pouvoir lire rapidement hein, les bouquins. On a reçu donc le numéro d'été juillet-août 2012, 22 euros. Quand même, c'est un certain prix, mais c'est, je veux dire, d'une qualité de publication.
En même temps, c'est moins cher que si c'était 23 euros.
Eh, c'est pas faux.
Bon, ils auraient pu le faire à 21,99€.
Oui. Oui, oui. Prix psychologique et tout le reste, pourquoi pas, après tout. Le psychopathe numéro 245, donc celui de septembre, est arrivé hier. 4,90€ en kiosque, c'est une spéciale Arrêtez de fumer. Sachant que Groland, ils avaient fait une émission au bout d'un moment qui s'appelait Du haché du vin. Hein, donc. On parle d'une addiction à une autre, et dedans on y retrouve Nicolas Dahan, Cam, OCDM, Casa, Godet, Pimpin, Pixel Vengeur, Civilier, Besseron, Ivars, t'es pas dedans. Hein, une fois
non,
de
non,
plus.
Mais j'ai plein de copains là-dedans.
T'as plein de copains dedans, et des gens qui vont venir d'ailleurs au Festival du film groenlandais, puisque Joël Godin,
Noël Godin.
À sa rubrique où en fait il chronique l'art de savoir sucrer les fraises. Non, c'est le bouquin qui. Bon, c'est mal présenté. C'est Sexy Sexa, pardon, qui le chronique dedans. Sur l'amour et les vieux. C'est assez marrant comme d'habitude, assez complètement allumé. Il y a des rubriques, il y a de la BD, il y a tout ça. Il y a aussi un petit peu d'actu, puisque bien évidemment, on parle de la mort du premier intervieweur de famille pauvre de France.
Ah, de la rue, d'accord.
Oui, de la rue. Et, oui, non, mais je l'aurais tenté, ça là. Bon, voilà. Bref, le psychopathe est en vente en kiosque. Moi, je l'ai pas complètement lu. Je me sens pas concerné.
Pour trouver le psychopathe, c'est pas difficile. Vous soulevez la pile cinémensuelle en vente depuis mercredi, et normalement c'est juste dessous, mais comme cinémensuelle est beaucoup plus grand, je répète, cinémensuelle est beaucoup plus grand, donc le psychopathe est juste derrière, donc voilà. Il faut soulever cinémensuelle.
Voilà, donc vous avez compris que J.O. participe...
J'ai bien vendu cinémensuelle, c'est bon.
J.O. participe à cinémensuelle. Bah, si tu pouvais en parler justement 5 minutes, donc c'est un mensuel ou un hebdomadaire?
Bah, c'est-à-dire qu'on a failli l'appeler ciné-hebdo-mensuel, parce que Ciné Hebdo a été créé en 2008 si je ne m'abuse, suite au licenciement de Ciné par l'humaniste Philippe Val, et ça, oui, ça s'appelle un oxymore. Et oui, regardez dans le dictionnaire, on me laisse 2 minutes.
Et donc c'est passé d'hebdo à mensuel.
Et c'est passé d'hebdo à mensuel avec une année et demie de jachère. Voilà. C'est-à-dire que pour Ciné qui a 84 ans, le rythme hebdomadaire était quand même très très lourd.
Ouais, et d'ailleurs.
Et pour nous aussi d'ailleurs, parce qu'on est assez paresseux. Et donc on a décidé de faire un mensuel. Et c'est vachement bien.
Ça change un peu la rythmique et tout ça.
Ouais, puis on est arrivé, on a contribué à virer. Comment il s'appelait le petit teigneux là sur Talonette? J'oublie son
Astérix.
Nom. Enfin, j'espère. Parce qu'on avait un clip merveilleux qui s'appelait Casse-toi, Popcorn.
Entre autres. Cette rencontre avec Ciné, tu l'as eu via ton parcours de dessinateur de presse depuis un certain temps, de toute façon.
C'était non, je l'avais jamais croisé. En fait, on avait plein de copains en commun et je l'avais jamais croisé. Et quand il s'est fait virer, il y a eu un blog de soutien qui a été organisé par Rémi Malingret et.
Je sais plus. Y arriver.
Oui, non mais c'est l'âge, tu sais. C'est...
Comment il s'appelle lui déjà?
Et le Fred Touron. C'était sur le blog du Nouvel Obs et c'était dans les pages de Delphine de Thon. Et donc il y avait une thématique, c'était un strip en 3 cases. Donc les deux premières, dont la première case était imposée, c'était un dessinateur qui se pointait dans une rédaction pour remplacer Ciné. Et donc on était toute une clique de dessineuses, si tu veux, à essayer de faire des trucs un peu marrants, un peu provoques. Et je me souviens, j'avais fait en fait un mec qui arrivait et qui disait bonjour, ah vous venez pour la place de dessinateur. Et le mec disait non, je viens pour la place d'antisémite. Et finalement la connexion s'est faite toute seule.
Alors Ciné, il était très proche de l'équipe de Groland, donc c'est par ce biais-là en fait que tu as connu de l'épine.
Voilà, c'est-à-dire que dès les premiers mois de Ciné Hebdo, on m'a envoyé un reportage suivre la tournée de promotion de Louise Michel, donc film réalisé par Benoît Delépine et Gustave Kervern. Mmh. Et donc sur les lieux même du tournage du film en fait. Et donc pendant une semaine, on a fait une espèce de road movie, non filmé mais dessiné. C'était un road cartoon. Et comme ce sont des gens extrêmement sympathiques et que je suis également extrêmement sympathique, nous avons extrêmement sympathisé.
C'est pas prouvé, il m'a toujours pas offert une bière. À boire avec modération, bien évidemment. Donc, le Festival du film groenlandais, c'est une institution qui existait déjà auparavant.
Oui, à Caen,
dans la Somme.
Dans le Nord.
Dans le Nord. C'était entre 2005 et 2009. En 2010, il y a eu une autre édition à Léouche, maintenant c'est à Toulouse. Est-ce que par hasard il n'y a pas une idée de refaire un peu le coût commercial du Printemps de Cahors et en même temps de pomper des subventions publiques?
Quelle idée à la con.
Ah bah tu me connais, hein, esprit mal tordu.
Non, l'idée c'est l'idée elle est très saine au départ et même à l'arrivée d'ailleurs.
Pourquoi je te crois pas?
c'est un cinéma qui passe quasiment pas à la télévision et quand il reste en salle c'est une semaine quoi. C'est des films que personne n'a vu. D'ailleurs c'est pour ça qu'on a fait une très grosse rétrospective de cinéma à l'occasion des 20 ans de Groland, que nous avons intitulé Le retour de la vengeance des films que tout le monde n'a pas vu. Et il y a des perles extraordinaires, il y a des films qui sont bouleversifiants, comme dirait d'autres.
Oui, la programmation est vraiment. Enfin, on en parlera justement.
Il y a une cinquantaine de films, 9 films en compétition. Il y a vraiment une grosse semaine de cinéma. D'ailleurs, il sera impossible de tout voir.
Aïe.
Faudra revenir l'année prochaine.
D'accord, ça va être méga chaud, bah super, on va s'amuser quoi. Sur la filmographie justement, d'abord, ce que je veux savoir c'est est-ce que le Fifi Gros quand même a l'idée là aussi d'exister dans d'autres villes et de devenir un festival à licence, comme par exemple la Co-Parade, et si oui, dans ce cas-là, est-ce que c'est Canal Plus Vivendi qui touche les droits?
Il y a plusieurs questions en une.
Droit dans cette histoire.
Ah, tu me connais.
Droit dans cette histoire.
C'est des questions qui sont faites pour ne pas répondre.
Canal Plus nous a aidés. Parce que sans Canal, le festival aurait même pas démarré. C'est eux qui ont vraiment amorcé la pompe. Si Canal Plus avait pas été là, il y aurait pas eu. Personne aurait suivi derrière. Ça, c'est évident.
Mais pour le coup, c'est quand même un festival qui fonctionne avant tout sur l'énergie bénévole. Là, c'est une première édition, donc il y a même des salles de ciné, des salles de concert à Toulouse qui prennent des risques parce qu'ils y vont sans filet. Donc on ne peut pas dire que ce soit une grosse machine qui bénéficierait du confort total de riches mécènes. Il y a du risque quand même.
Mais est-ce que c'est un festival qui est voué à avoir d'autres éditions ou est-ce que vous attendez vraiment comment ça va marcher cette année avant d'y réfléchir?
On a déjà commencé à réfléchir à d'autres éditions et apparemment, même en haut lieu, tout le monde serait intéressé à l'idée d'avoir un festival du film indépendant dans le sud-ouest parce que c'est ce qui manque. Il y a beaucoup de festivals dans le coin. Mais pour le coup, ça, il y a un créneau à prendre. Donc l'idée, c'est quand même de pérenniser une manifestation de qualité.
C'est un cinéma indépendant qui est un peu particulier puisque c'est un cinéma qui parle de gens qui sont à la dérive d'une société qui est au bord du gouffre. C'est un cinéma un peu de banlieue white trash, quoi.
Oui, mais du coup, pourquoi pas à Toulouse? Au contraire, Toulouse a toujours eu une image contestataire et qui a toujours défendu les marges et l'idée qu'on ne soit pas dans le mainstream, donc au contraire.
Merci de nous rappeler qu'on est la patrie d'Action Directe. Oh. Parmi les...
D'ailleurs, le président de notre association, c'est Renaud Fréchin, qui travaille au cabinet Etlin.
Cabinet
Etlin, qui était le cabinet qui défendait Action Directe.
D'accord. Non, ça va être fun. Parmi donc les cinémas qui font partie, qui vont projeter la sélection ou une partie du programme. On y retrouve donc la multinationale Utopia avec Utopia Toulouse, Utopia Tournesol, l'ABC et le Cratère qui est en cours de rachat. Il y a aussi la Cinémathèque de Toulouse, il y a l'ESAV qui y est présent. Est-ce que les étudiants de l'ESAV, quand vous leur avez proposé le projet, ils sont venus juste par le fait que... Ah oui, super,
ils sont
on va
venus
avoir
avec
plein
des bières.
Est-ce qu'on va avoir des films
avec des bières.
On va pouvoir projeter des films à nous, de trucs qui sont hyper chiants à comprendre, ou bien c'est ah ouais, super, c'est Groland, ça va être fun, on ne jure que par Groland.
Non, mais on a essayé d'être, de faire les choses très, le plus sérieusement possible.
De ta part, je vais te croire. Ouais.
Non, on peut déconner, mais monter un festival comme ça,
ouais, c'est du boulot.
On est obligé d'être extrêmement rigoureux, même si ça se voit pas toujours. Et donc l'ESAV est vraiment et réellement partenaire dans cette histoire-là. Il y a un prix des étudiants de l'ESAV qui sera remis, c'est-à-dire qu'il y a un jury de 5 étudiants qui va voir tous les films en compétition et qui remettra son prix. Nous avons trouvé intéressant d'avoir une vision sur le cinéma qui était une vision de jeunes démarrant dans ce métier ou de futurs réalisateurs ou futurs professionnels du cinéma et de l'audiovisuel. C'est ça. Et Jean-Louis Dufour, qui est donc le directeur de l'ESAV, est membre du jury, donc on est vraiment en réel partenariat avec eux. Et c'était la moindre des choses. En plus, il faut rappeler que l'ESAV est une école, c'est l'école supérieure d'audiovisuel, qui est une école publique.
Puisqu'on allait au jury, tu peux aussi nous parler un petit peu du jury du festival ON, on va dire, hein, c'est-à-dire du jury officiel qui va décerner l'Enfant d'Or, avec quand même un partenariat, enfin, je veux dire, des invités prestigieux, Bertrand Blier comme président.
Ah ben,
du jury,
on était très très heureux que Bertrand Blier accepte. Mais ça, c'est le carnet d'adresse de Benoît Delépine.
Ouais, bien sûr.
J'essaye de lui piquer, c'est dur. alors, il faut savoir que nous avons eu deux défections, hélas, et les gens, le public le regrettera, mais c'est les premiers à regretter de ne pas faire partie de la fête, c'est Jackie Berroyer et Horatica.
D'accord.
Ah, dommage, oui.
Voilà, alors donc Jackie Berroyer est retenu sur un tournage, son planning de tournage a changé, et il tourne avec Yolande Moreau, qui était invitée, qui a été une des premières invitées du festival et qui a décliné l'invitation puisqu'elle était en tournage. Nous avons Miss Ming, qui est une actrice, une comédienne fétiche du couple Carverne de l'Épine,
et qui elle-même est artiste d'ailleurs,
qui est artiste complète puisqu'elle elle écrit, elle chante, c'est une merveilleuse comédienne, et elle était ravie d'être là pour faire une animation un petit peu improvisée et surprise pour la soirée Groland d'une fois à Utopia à Tournefeuille. Et donc elle est coincée elle aussi par Yolande Moreau. Yolande, si tu nous écoutes,
ça c'est le souci de c'est le souci des acteurs ou des bandes d'artistes, c'est que quand il y en a un qui est pris, ils sont tous pris au même endroit, quoi.
Voilà, on s'est aperçu du truc. Donc je pense que l'année prochaine on étendra à la famille Desjardins.
Et juste une question, parce que du coup effectivement donc il y a ces soucis de planning, mais ça fait combien de temps en fait que vous préparez le festival, et ça fait depuis combien de temps à peu près que la date a été fixée?
La date a été fixée dès le début, c'est-à-dire il y a un an et demi.
D'accord.
Puisque nous étions tributaires de la
rentrée télévisuelle.
Non, de l'anniversaire de Groland, qui correspond forcément à une rentrée télévisuelle.
Alors il dit non, mais oui.
Non, voilà. Non, c'était 15, c'était à peu près à cette époque-là. On peut pas être juste avant Cannes si on n'a pas les films. Juste après, tout le monde est en promo, puis après il y a l'été. Au mois d'octobre à Toulouse, juste après nous, il y a Cine España. Après, il y a la novella.
Ouais.
En fait, il y a 10 festivals de cinéma à Toulouse.
La Novella est un festival de cinéma.
Non, mais
ah bon,
certaines salles sont, par exemple, les SAB
et le muséum beaucoup.
Et le muséum
sont
sollicités. Et donc il y a des tas de salles qu'on n'aurait pas pu avoir. Oui, parce qu'il se passe aussi des choses au muséum.
Bah, on va y venir.
Voilà.
Dans C'est vrai que c'est un Groland est un produit dérivé de Nulle Part Ailleurs. Il y a eu d'autres qui ont eu droit à leur ciné. Il y a eu d'autres parties de Nulle Part Ailleurs qui ont eu droit à leur propre film. Je pense notamment au Nul. Mais tout a commencé en 98 avec Michael Culkin contre la World News Company. Est-ce qu'il y en a qui peuvent se vanter d'avoir vu le film à l'époque et au cinéma?
Ah, j'ai vu le film.
Est-ce que tu te souviens pourquoi le film a planté?
Il était pas bon.
Entre autres, mais qu'est-ce qui sortait, la même semaine?
Je sais pas, Bienvenue chez les Ch'tis?
Non, pire.
98?
Non.
Titanic?
Non.
C'était la Coupe du Monde?
Non, c'était en février. Il était sorti de 15 février.
Nadine Morano du Dans Playboy?
C'était pas 97, c'est Titanic. 98.
C'était Astérix. Il sortait la même. Ouais. Non, le premier.
Ah oh, bon, il
était sorti la même semaine.
Il
n'a
pas marché non plus.
Voilà, mais j'ai eu l'occasion de le voir en première à Angoulême. Et t'avais Delépine qui était effondré, qui disait ouais, mon film il sort en même temps, etc. Mais c'est vrai que bon, il était pas très bon.
Mais il était sympa son film en même
temps.
Bah,
en fait, en même temps, il était un peu complexe parce qu'il était tourné à la fois en français, en anglais. Il y avait à la fois des grosses stars et à la fois des mecs totalement inconnus. Il jouait sur plusieurs plans. Là-dessus, il marchait pas. Mais après, quand on regarde leur filmographie, il y a eu Altra en 2004, Avida et tout ça, où là, ils sont resserrés à un truc qui est plus proche, je vais dire, ça me fait presque penser à l'univers qu'on avait.
Moi, il connaît pas, mais.
Attends, c'est plus Thomas, hein, tu vois, mais justement, cet univers que je dis, White Trash et tout ça, c'est-à-dire, ils sont plus resserrés sur donc leur ambiance un peu fin du monde, société à la dérive et tout le reste. Pas fin du monde,
c'est
hein,
très,
en soi.
C'est des gens qui sont très concernés socialement. C'est des énervés, c'est des révoltés. Ils sont allergiques à la connerie humaine. Et je trouve que ces films le soulignent parfaitement. Je suis complètement fan de Altra. On peut en dire deux mots. C'est deux voisins qui, suite à un accident de machine agricole, alors qu'ils se bagarraient tous les deux, se retrouvent handicapés en fauteuil roulant. Et décide d'aller réclamer réparation auprès du constructeur. Et le constructeur s'appelle Altra, et c'est en fait un fauteuil roulant movie. C'est-à-dire c'est un road movie, mais pas vite. et donc, il traverse la moitié de l'Europe pour retrouver le constructeur. Et c'est un film qui a été fait avec 3 francs 6 sous. C'est absolument merveilleux, quoi.
La différence absolue avec le premier film de ce côté-là.
Il est diffusé d'ailleurs pendant le festival. Je conseille aux gens de
Il est en noir et blanc d'ailleurs, non?
Il est en noir et blanc. C'est pas une esthétique gratuite aussi. C'est vraiment un film à découvrir.
Et à partir de là, la filmographie de Delépine et de...
Kervéen.
J'arrive jamais à le prononcer correctement. Plus ou moins progressé.
T'as qu'à dire Claude Zidi si t'y arrives pas.
Quoique Claude Zidi, je suis pas sûr qu'il ait eu le prix spécial du jury à Cannes. Encore moins en 2012 d'ailleurs. Justement, de ce côté-là, il y a une progression. Est-ce que tu penses que c'est parce que les gens s'intéressent du coup par rapport au film à énorme budget qui est la seule chose qui sort d'Hollywood actuellement, et du coup s'intéresse justement à ces films petit budget, ou est-ce qu'ils ont réellement progressé?
Je pense qu'il y a une vraie cote d'amour au niveau du public concernant Kervéen et Delépine qui tracent leur sillon. Je pense que le premier film qui a vraiment été le déclencheur, c'est Louise Michel.
Ah bon, moi je pensais que c'était la pub pour les sols Gerflore et Hop avec Salengro.
Il est vraiment pas drôle, ce mec.
Enfin, quelqu'un qui le dit à l'antenne.
Bon, je sens qu'on va revenir.
Celle-là, elle va rester pour le générique suivant.
Oui, donc, ils tracent leur sillon, et les gens finissent par se reconnaître dans cette histoire-là, quoi. Donc Louise Michel, c'était quoi? C'était l'histoire le pitch au départ, c'est une histoire vraie, c'est-à-dire une fabrique de cintres avec les filles qui arrivent pour prendre le boulot le matin, et elles apprennent, et il y a plus de machines dans l'usine. L'usine a délocalisé. Or, détail réel, c'est que le vendredi avant qu'elles partent en week-end, on leur a offert des nouvelles blouses. Ah, méfiez-vous, ouais. Si on vous offre une nouvelle blouse,
c'est mauvais signe.
C'est pas bon. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles ont décidé de trouver, d'éliminer le patron et de payer un tueur à gages pour éliminer le patron. Et on s'aperçoit en fait qu'il n'y a pas de patron, ça n'existe plus les patrons. C'est diffus, ça finit par des fonds de pension, etc. Et le film montre ça de façon humoristique, un petit peu désespérée. Et je pense que c'est des films qui collent pas parfaitement à leur époque. D'ailleurs, je vois le petit personnage souriant de Télérama à côté de moi qui veut dire quelque chose.
Je n'y suis plus. Non, juste, tu parlais de progression tout à l'heure. Oui. Clairement, s'il est reconnu par ses pairs, enfin, ils sont deux, donc ils sont primés dans les festivals, ils sont considérés par les gens du métier comme autre chose que simplement des gars de la télé qui iraient faire des films pour voir ce que ça fait. Donc clairement, oui, il y a un changement. Aujourd'hui, ils sont reconnus par l'ensemble de la profession comme des vrais cinéastes à part entière.
Est-ce que vous pensez que le public qui va venir à votre festival, ce sera plutôt le public qui regarde à la télé l'émission Groland ou le public qui va aller se déplacer pour suivre vraiment la filmo de Kerverne et de Delépine, ou bien est-ce que de toute façon c'est le même public?
Je pense que c'est un public de cinéphiles.
Oui.
Franchement, je pense que c'est un public de cinéphiles.
Puis je pense qu'il va y avoir surtout plein de publics différents, parce que quel va être le point commun entre ceux qui vont aller écouter une conférence au muséum sur la préhistoire de Groland et ceux qui vont aller écouter des concerts de punk disséminés
des étudiants de la fac du Mirail convertis aux idées complètement moisies de l'extrême gauche.
Ah voilà. Bon, alors c'est vrai que ça fait un dénominateur commun, mais apparemment il y en a qui viennent plus loin que
Mélenchon,
la fac.
Si tu nous écoutes.
Mais voilà, on sait jamais, vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de gens qui aussi nous suivent sur ces différents médias, qui peuvent venir aussi du milieu geek, puisqu'il y a des gens du Tétalab qui nous ont préparé des petits trucs, voilà, il n'y a pas que...
Il y a pile de Minitel qui traînent dans leur bloc, dans un coin.
Il n'y aura pas que les aficionados de la télé, de l'émission Groland.
C'est-à-dire qu'il y a le cinéma et il y a les 20 ans de Groland, c'est-à-dire que c'est à la fois un anniversaire... avec une déambulation présidentielle, un bain de foule, on appelait ça un bain de foule présidentielle, au travers les rues de Toulouse, dans un lit, dans le Bed Force One.
Le Bed Force One.
Voilà. Et donc, avec des vierges qui seront offertes pour les 20 ans à 20 vierges, filles et garçons, qui seront offertes à notre président Christophe Salengro. Oui, quand on dit notre président, il faut mettre la main sur le cœur, sinon on est viré. C'est sous contrat. Voilà. Ils sont durs à Canal. Hein.
Si vous nous rejoignez donc sur le supplément week-end, soit en direct, soit en différé, n'hésitez pas, tout le programme, pendant que l'on parle, vous pouvez consulter sur groland31.wordpress.com. On aurait pu acheter un nom de domaine à stade en .grd.
On a un nom de domaine.
Ah.
C'est a-côté-sans-accent.org.
D'accord, mais c'était pas celui-là que j'avais eu.
On n'a pas bien fait le boulot.
Puis les accents sur les Minitel.
Il
hein.
n'y a pas d'accent, c'est pour ça qu'on n'a pas mis d'accent.
Enfin,
donc,
bref.
3615 à tirer côté.
Voilà, sachant que l'association à côté, justement, c'est les organisateurs. Donc,
l'association a été créée pour ce festival. Mais on fera peut-être d'autres choses aussi. Hein.
Et actuellement, donc, les forces vives de l'association, vous êtes combien ? Comment, en fait, s'est décidée la programmation en elle-même ?
Bon, je dirais qu'on est une petite dizaine, et plus une armée de bénévoles.
Des centaines.
Des milliers de bénévoles.
Ça, je veux bien croire.
Donc, si vous voulez faire saliver les fans de l'univers de Groland, est-ce que vous pouvez nous confirmer la présence de qui, en fait ? Qui c'est qu'il y aura de l'émission Groland qui viendra au festival ?
Alors de l'émission, il y aura à peu près toute l'émission, à savoir Christophe Salengro, Gustave Kerverne, Benoît Delépine, Franck Kiki, Sandra Dra,
Moustique.
On ne sait pas. Parce que, en fait, Moustique, il a son festival.
Ouais.
Et je ne sais pas dans quel état il sera la semaine prochaine. Il est lui-même organisateur de festival et d'un gros truc qui doit être assez... Il va être fatigué. Donc, en plus, on aimerait bien qu'il vienne parce qu'il a un film qui n'est pas en compétition, mais c'est son premier court, qui s'appelle Country Parasite, où il joue le rôle d'un prêtre. et qui passera avant un film en compétition, je sais plus lequel. J'aurais dû me faire des fiches. Les pros, ils font des fiches, mais en même temps, on est bénévoles, on s'en fout.
Voilà.
Oui, donc, et puis on a donné donc le lien, on le redonnera et on le mettra en lien sur le site.
Voilà,
de
il passera avant un film en compétition qui s'appelle Queen of Montreuil, qui sera diffusé.
Ah oui, le film de Solveig Anspach.
Voilà, film de Solveig Anspach qui est absolument
ouais,
magnifique.
Et qui a un bouche à oreille de dingue.
Magnifique, on s'est régalé à voir ce film en test.
Alors, dans la programmation.
Donc là, je vois que Country Parasite 2, et là c'est son vrai nom, c'est ça?
Pardon?
Ah oui.
Est-ce que tu dis
c'est
que...
Non, je sais plus.
Il y a marqué précédé du cours Country Parasite de Jérôme Bernard.
Oui, c'est Jérôme Bernard. Non,
c'est pas son nom.
Non, Jérôme Bernard, c'est le réalisateur.
Ah oui, il joue dedans, d'accord.
Et Moustique joue dedans, okay, avec Kafka alias Francis Kunz.
D'accord.
Voilà.
Là-dedans, il y a d'autres personnes qui viennent autour. Il y a donc, surprise, Bertrand Blier en président du jury. Noël Godin qui est présent. Alors,
oh,
moi, juste
Noël
une question.
Noël Godin.
Qui est à Toulouse, est-ce que ça veut dire pour BHL qu'il est temps pour lui de s'exiler en Syrie?
Non, ça veut dire que BHL ne sera pas à Toulouse.
c'est
une
triste.
Bonne nouvelle.
Ouais, mais on aurait
philosophie.
Pu s'amuser. Ah, il reste Finkielkro sur France Q. Coucou d'ailleurs à Marc Blanchet.
De toute façon, on ne la ramène pas trop parce qu'il y a peut-être des listes qui circulent sur les entartes.
Non,
les entartes possibles.
Il a accordé une interview il y a quelques jours à un de vos confrères d'un petit mag qui sort bientôt, où on lui demandait s'il avait déjà des cibles à Toulouse, et il a dit pour l'instant, de toute façon, vous pensez bien que je ne les donnerai pas.
Je sens que je vais passer une semaine assez difficile. Donc,
nos amis des services secrets, vous pouvez vous mettre au boulot, vous avez raté Mohamed Merah.
Voilà, et pour nos amis intérimaires, sachez qu'il y aura beaucoup de boulot entre lundi 17 septembre et donc le 22 septembre en tant que garde du corps.
23 septembre.
23. Voilà, vous essaierez de négocier ça jusqu'au dimanche hein, pour un emploi de garde du corps. Bertrand Blier en président du jury, comment ça se fait?
Le candidat reste de Delépine.
On a vu 2-3 de ses films, on a pensé qu'il était pas mal.
J'adore la manière dont tu le regardes, tu vois, je regarde une fiche,
et
on
lui,
pensait qu'il était pas mal.
Il a pas mis longtemps à dire oui non plus.
Ah,
hein.
Il a dit oui tout de suite. Il a dit oui tout de suite et on est super, super content. Mais en même temps, ce festival, même si c'est le premier, il s'inscrit quand même dans une lignée de festivals antérieurs, à savoir les festivals du film Grolandais à Caen, où les films qui ont été primés dans les éditions précédentes, c'est Borat, c'est Louise Michel,
oui.
C'est La merditude des choses, qui est un film extraordinaire. On essaie. Je vais dire un secret, je peux dire un secret.
Vas-y, dans le micro.
En fait, ce qu'on voudrait faire, c'est vraiment un très très gros festival du film indépendant à Toulouse. Voilà.
Ce serait cool.
Mais le répétez pas.
Mais non. Bertrand Blier, on m'a dit qu'il avait quand même des demandes un petit peu spéciales en tant que star. Il a exigé, d'après ce que j'ai entendu, un cassoulet surprise avec une stripteaseuse qui en sortirait. Est-ce que ces rumeurs sont confirmées?
Le problème, c'est qu'on n'a pas voulu. On n'a pas trouvé de stripteaseuse qui sache nager dans du cassoulet.
C'est du lingot, ça va. Ça.
Ah ouais,
le plus dur, c'est retenir sa respiration.
Ça pègue.
Non, normalement, c'est dans les pièces montées qu'il y a des stripteaseuses qui sortent.
Oui, le cassoulet, c'est plus rare.
Parce que sortir de la saucisse, comme. Bon, enfin, bon, oui, si.
Non, quand même.
Oui.
On est vraiment absolument très, très heureux que Bertrand Blier ait accepté. Donc, je vais égrainer le nombre des membres du. Les noms des membres du jury. Donc, Horatica qui ne peut pas venir et qui le regrette, et nous aussi. Jacky Berroyer, pareil. Mais Jacky Berroyer nous a promis qu'il serait là l'année prochaine. Et après, a priori, il ne viendrait pas seul puisque Louis Rego l'accompagnerait.
Ouh.
Cool.
Oh. L'avocat le plus bas d'Inter.
Ouais, mais monsieur a de la culture. Jean-Pierre Bouixou que j'ai connu à Ciné Mensuel, qui est un journaliste, écrivain et réalisateur. Il a beaucoup tourné dans les années 60. Je crois que c'est le premier à avoir fait un film qui sera d'ailleurs présenté à la Cinémathèque de Toulouse. C'est un film, c'est du grattage de pellicule.
Ah oui.
Donc, ah oui. En animation.
Donc, on prend une pellicule vierge et on gratte image par image. Ça prend des mois. Et donc, bah, évidemment, il faut resituer ça dans, dans le contexte historique. Ça se passait dans les années 60. Et donc, c'est un ami à Noël Godin. Et tous les deux, ils ont travaillé ensemble, ils ont fait des films ensemble, ils ont travaillé sur des films ensemble. Ils ont écrit des bouquins ensemble. Et c'est une espèce de père incontournable dans le.
De la contre-culture française, quoi.
Voilà, voilà. Jean-Louis Dufour, qui est le directeur de l'ESSAV. Pierre Gaffier, qui est un réalisateur et qui a été. J'ai travaillé avec Pierre Gaffier dans les années 80 dans une émission qui s'appelait La Vie à plein temps, qui était réalisée à France 3 Toulouse et qui était diffusée sur le réseau national. Et Pierre Gaffier était à l'époque critique de cinéma et il est resté 2 ans, puis il a été critique de cinéma à Nulle part ailleurs.
Époque Gildas
et donc après il a monté je crois une petite boîte de production,
ouais,
il a été réalisateur et donc il aura un petit un court métrage qui date de quelques années qu'il présentera qui s'appellera L'homme au bras d'or, qui est en fait un chef applaudisseur.
Chauffeur de salle,
c'est bas de gamme. Non, chef applaudisseur, c'est un peu comme chef d'orchestre, quoi. C'est un peu le Karajan de l'applaudissement, voilà. Et donc il explique son parcours puisqu'il est chef applaudisseur chez Michel Drucker, Michel, si tu nous écoutes, etc. Noël Godin.
Épique.
Donc Noël Godin, chef fantasteur qu'on ne présente plus, qui est un monument de culture cinématographique et livresque. Jean-Marc Le Squarnec qui est critique cinéma à la Dépêche du Midi. Stéphane Mercurio qui est réalisatrice documentariste et qui aura son film qui sera projeté Mourir plutôt crever sur la naissance de Ciné Hebdo, donc avec une grosse partie de l'équipe du journal qui sera présente pour parler du film. Jean-Henri Meunier, qui est réalisateur documentariste, qui est connu pour avoir fait Allô Najac, Ici la Terre,
qui plaira encore aux étudiants du Mirail dont tu parlais tout à l'heure.
voilà. Là, je parle trop loin du micro. On me dit, on va recommencer l'émission plus près du micro.
Non, c'est en fait, tu peux être dans l'axe, mais tu peux te tourner comme ça en fait.
Voilà
pour lui parler.
Voilà, ah ouais, vous pouvez pas le voir pour ceux qui n'ont pas payé la redevance, pour ceux qui n'ont pas payé la redevance couleur ou qui n'ont pas le déconneur canal, c'est même pas la peine de comprendre.
Comme les speakers, c'est.
Voilà.
Ensuite, Marc Andriessen, j'ai tenu à ce qu'il y ait un dessinateur dans le jury, qui est auteur de bande dessinée, et Serge Regourd, qui est professeur des universités, auteur et qui est administrateur également à la Cinémathèque de Toulouse.
Ça fait une bien belle équipe et donc ça va bien 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 déconner à côté, puisque à côté de ces gens doctes qui seront là pour noter des films et leur remettre des prix, puisqu'il y aura trois
amphores, l'amphore d'or qui est en fait le prix du jury, l'amphore du peuple qui est le prix du public, puisque le public votera.
Voilà, donc tout le monde sera docte, voilà, et tout le monde donnera des prix.
Les gens recevront un petit formulaire à remplir. Et noteront les films et après on fera le décompte. On va bien s'amuser là aussi. On pourra le faire à jeun. Je dis ça pour Et le prix des étudiants de l'ESSAV. Et donc le prix physique est en fabrication.
L'amphore.
Il doit être lourd.
Les trois amphores, ça risque. Oui. Les trois amphores sont en fabrication. Et elles seront dévoilées au public le jour de l'ouverture du festival, ou peut-être avant sur le site internet. Et c'est Philippe Mandil qui est décorateur au Théâtre du Capitole qui les réalise gracieusement.
Ah. Ça va être fun.
Merci, merci Philippe.
Ça va être très fun. Je propose une petite interruption musicale avec les ventes passes, Christine. Supplément week-end numéro 321, spécial Fifi Gros sur Radio FMR 89.1.
Christine, sur ta veste en jean, y a des têtes de mort, une frange en soie. Christine,
Par les vents, passe extrait de l'album Rock and Roll Part 9 et on parle du festival du film hollandais. Donc je rappelle que dans le programme de ce festival qui a lieu donc du 17 au 23 septembre, il y aura des films What the Fuck Punk contestataires mais distribués par de grands groupes commerciaux. C'est bien de soutenir les bénéfices de Vivendi.
Ah ouais, merci Vivendi.
Donc tu as cité principalement un partenaire, mais vas-y, cite-les tous.
Oh, tous, je sais pas si je vais y arriver. Sans lunettes.
Dans le micro, ce serait mieux.
Non, mais il y a la mairie de Toulouse nous file un très très gros coup de main. La région, la SACD, on a rencontré le président de la SACD, Bertrand Tavernier, qui est un monsieur extrêmement sympathique et qui aime beaucoup le cinéma. Et
a intérêt.
Oui. Tisséo, le MOVE que je tiens à remercier à cette antenne.
Salut les petits.
Et puis les cinémas ABC, Cratère, Cinémathèque, Essab, Utopia. Enfin bref, il y a BD Ciné, Djerkov, FMR, on dit FMR. Oui.
La radio FMR qui sera dans la cour de la Cinémathèque pendant le festival.
Oui, radio FMR sera là, ils sont pas au courant ici. Parce que
on n'est pas au courant.
C'est du petit personnel, mais radio FMR sera, mais on aura la direction du groupe en fait.
Je vais le noter quand on sera là-bas.
Il va vraiment falloir penser à virer Fraisière là, parce qu'il ne nous prévient pas. Président de la radio, c'est une catastrophe.
Et voilà, une radio qui sombre une fois de plus dans le jeunisme.
Alors, à propos de jeunisme, justement, pour donner un air de fête à un festival de cinéma, parce que comme tout festival de cinéma, c'est en général très morne, très sérieux, il y aura des petits concerts musicaux, principalement du punk. Et c'est très gentil, finalement, de recycler les anciens et actuels animateurs de radio éphémère. Est-ce que quelqu'un peut parler ici de la programmation musicale?
En fait,
c'était un piège.
En fait, moi, je peux vous parler de musique, mais
en général,
depuis que les Beatles se sont séparés, j'ai un peu perdu le fil.
Donc, il y a les producteurs de Port, qui est le groupe donc de Salengro. Ouais. Donc, c'est eux qui interprètent l'hymne.
Voilà,
je mourirai
voilà,
pour
c'est
toi.
C'est l'orchestre philharmonique de Groland, en fait.
À côté de cela, il y aura donc les Brassens Not Dead. Là.
Avec un concert qui sera simultanément traduit en langage des signes pour les sourds Pour les sourds.
Redis-le pour nos amis sourds qui nous écoutent.
On va y venir. On va y venir justement dès l'effort d'intégration vis-à-vis justement des handicaps. Il y a Légitime Défonce, il y aura les copains de Xor, il y aura de l'électro-hip-hop avec Dacru, du tech n'importe quoi. Bref, il y a tout un programme musical assez couillu, hein, il faut le dire.
Généralement, les noms des groupes.
Moulu, pardon, j'allais oublier les filles.
Non, mais ça la programmation musicale, c'est des jeunes qui s'en sont occupés. Emmanuel Delpirou et les copains de Djerkov qui ont réglé ça, qui ont fait un gros boulot. Il y a deux concerts par soir, enfin, c'est le truc énorme. Il paraît qu'il y a Ecstasy à volonté.
Ça, c'est effectivement Agro FMR qui aura lieu tous les jours de 17h à 20h avec des groupes en direct dans la cour de la Cinémathèque. Il y a pas mal de choses. Il y a aussi donc cette initiative assez amusante. Et je vais dire plutôt bienvenue, puisqu'il y aura une conférence en langue des signes au Muséum d'Histoire Naturelle. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus pour nos auditeurs qui sont sourds? Dieu sait s'ils sont nombreux.
Je peux le faire.
Parce qu'en fait, hier, vous avez dévoilé donc la bande-annonce sur YouTube, intégralement sourde. Je montais le son, il n'y avait rien.
Si, par moment, ils ont oublié de mettre...
Oui, il y a des moments où
on entend des trucs. Ouais.
Des petits bruits, oui. Ouais. Donc, quelle est l'idée derrière justement ces conférences au Muséum d'Histoire Naturelle?
On ne peut pas parler d'une paternité quelconque pour cette idée-là. C'est un peu venu naturellement, puisque André Langanet,
éminent paléontologue,
généticien, anthropologue, etc. Enfin, donne des conférences un petit peu partout dans le monde. Les aficionados d'Arte le connaissent bien.
On le voit aussi dans Le Psychopathe, de temps en temps.
On le voit dans Le Psychopathe. On le voit tous les mois dans Ciné Mensuel. Il était dans Ciné Hebdo. Il était à Charlie Hebdo à l'époque où c'était un journal. Je ne l'ai pas dit.
on va être accusé de publicité mensongère.
Donc,
là, c'est sa conférence qui va être traduite.
Donc, André Langanet, c'est d'aider la science. Et donc, il va faire une conférence sur le Groland de la préhistoire, c'est-à-dire qu'il va un petit peu exploser tous les lieux communs et toutes les boursouflures. En fait, ça va être un entartage. Ça va être un entartage des fosses. Des fausses éminences
du secteur,
et il va un peu dynamiter tout ça. Et il y a une expo de François Sculier qui est paléontologue et qui est un monsieur très 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 sérieux, qui fait des expositions dans le monde entier, qui est un découvreur de dinosaures et qui va nous faire une exposition avec des fossiles, des squelettes,
et assez louvre-dingue aussi.
Assez louvre-dingue, puisque c'est le premier à avoir découvert le crâne du Pac-Man. Vous pouvez vous tapez François Esculier Pac-Man sur Google, allez-y.
Il est très créatif.
Il est complètement disjoncté.
D'accord, ça va être assez fun de ce côté-là.
Et donc, on tient à remercier le Muséum d'Histoire Naturelle.
Voilà, merci. Qui sera traduit en langage des signes. Il y aura une traduction simultanée. La conférence de Langanet sera traduite. Et c'est ce que tu as vu en bande-annonce sur YouTube.
Qui était hier et plein d'autres choses. J'allais demander si l'un de mes comparses, mais Thomas est occupé à Facebooker tandis que
je Facebook sport... pas, j'avais oublié d'annoncer.
Il a envoyé un tweet à Trier Vellor.
On lui a piqué la cime.
Oui, tu voulais quoi?
Non, s'il y avait d'autres questions sur l'idée justement sur la partie multimédia, sur le cycle de conférences, c'était quelque chose qui était déjà d'ailleurs, je crois, dans l'édition originale.
Dans l'édition originale, la partie multimédia?
Ouais.
Pas à ma connaissance, mais...
J'étais membre du jury du Festival de Cannes, mais j'avoue que j'ai pas pu voir tout ce qui se passait autour. Donc là, j'ai pas de réponse. Par contre, nous aurons une autre conférence au cinéma Le Cratère. J'ai pas le jour, je crois que c'est mercredi ou jeudi. La conférence sur les attentats pâtissiers.
Ah oui, Noël Godin.
Une conférence de Noël Godin avec un petit film. Et voilà, ça sera une sorte de café philo.
Café philo made in Noël Godin.
Voilà.
Gloup gloup.
Gloup gloup.
En tartant.
Ami de la flibuste.
Rendez-vous.
Je sens qu'on va vraiment bien se marrer de ce côté-là. Donc les références, donc le site c'est a-cote.org, voilà, hein, je vais y arriver cette fois-ci. Donc sur le FIFIGRO, premier festival international du film grolandais de Toulouse, est-ce que il y aura des parties qui seront filmées, qui seront recyclées pour une chaîne payante extrêmement chère, et on se demande pourquoi on paie puisqu'ils ont plus de foot à diffuser.
A priori, non.
Il parle de Télé-Qatar, là.
parce que je crois qu'il y a une grande émission qui est prévue en décembre. Il y a une partie, il y aura quelques plateaux qui seront tournés.
C'est les gros,
ici.
Ça
Oui, donc on devrait avoir un petit peu en exclusivité quelques extraits de cette émission. Ça sera diffusé au Cratère, entrée libre et gratuite. Le dimanche, je crois que c'est, de souvenir, c'est à 15h30. Donc juste avant la remise des prix qui aura lieu à 18h
si tu peux parler de...
au cinéma. Il faut parler dans le micro,
c'est pénible,
c'est un métier. Et ouais, c'est comme dessiner sur la feuille, quoi. C'est un peu pareil,
ça aide.
Et donc ce sera entrée libre et gratuite, et ça sera juste avant, et ça sera présenté par Gustave Kervern, Benoît Delépine et une partie des réalisateurs de l'émission. Juste avant donc la remise des prix qui aura lieu, elle, au cinéma Utopia Centre-Ville.
D'accord.
Entrée libre pour la remise des prix, je suppose.
Ah, ça c'est une bonne question.
Non,
je pense pas, parce qu'il y a une séance, de cinéma, et là je pense qu'il faudra payer sa place.
Ouais.
D'accord. Bah voilà, au moins c'est dit, et ce sera justement squatté. Non, je déconne. Je déconne de ce côté-là. D'un autre côté, tant que vous y êtes, puisque vous avez vos entrées à Canal maintenant, ce serait sympa de leur dire que ils nous ont plagié un nom d'émission pour une émission qui est diffusée le samedi où les gens discutent de tout et de n'importe quoi. Ça s'appelle Le Supplément, mais le copyright est à nous. Hein.
Je rappelle que le président de notre association est avocat.
D'Action Directe.
On va discuter avec lui. Donc, on a fait un peu le tour du FIFIGRO. On vous a fait une petite sélection, what the fuck, comme ça, de bouquins que l'on parle, mais qu'on s'est dit ça va bien dans l'idée du truc complètement trash et allumé. Moi, je veux parler d'une bande dessinée de Inio Asano, qui est donc un auteur japonais qui a sorti qui sortait des petits courts comme Le Quartier de la Lumière, Sur la Ligne, Un Monde Formidable, qui étaient des histoires complètes. Et là, il sort une série où l'idée est de raconter l'histoire d'un gamin tout au long de sa vie. Ça s'appelle Bonne Nuit Poun Poun. Le troisième tome est sorti il y a un bail, il est sorti avant juillet en fait, voilà. Donc le troisième tome est sorti. On suit toujours Poun Poun, dont je rappelle que le père est actuellement en prison pour avoir manqué de tuer sa mère, qu'il est éduqué par son oncle, que sa meilleure copine en fait est embrigadée dans une secte, et là on en est à son arrivée, qui voit Dieu partout, Dieu sous la forme d'un rasta barbu à lunettes, enfin c'est complètement allumé. Ça sort dans la collection Bicana chez Canal. Le troisième tome en fait c'est son arrivée au lycée. On imagine qu'avec la poussée d'acné et tout ça, il y a quand même des débuts d'appétit sexuel. Et je rappelle le principe de ce bouquin: Inio Asano a un dessin qui est très réaliste, sauf que la famille de Poun Poun est représentée sous forme d'oiseau.
Donc qui ne parle pas.
Qui ne parle pas. C'est très étrange et bizarroïde. C'est Poun Poun qui ne parle pas, puisque ses parents.
Oui, et en fait, tu découvres ce qu'il dit en fonction des réponses de son entourage.
Alors, ça y est, il commence à parler, il commence à vaincre sa timidité. C'est un truc qui est vraiment étrange. C'est là aussi, c'est vraiment un bouquin what the fuck. Mais quand on a lu, on était déjà fan de ce que faisait Asano au départ.
Moi, franchement, je t'avais dit à
l'époque, j'aurais vu ça dans une librairie, j'aurais peut-être pas pensé à le feuilleter, parce que bon, ça donne, c'est une couleur unie, alors c'est sûr que c'est un peu radical comme choix, mais après, faut donner
c'est
aussi envie. Voilà, c'est fuchsia, oui.
Celui-ci, ouais. Mais après, une fois qu'on est dedans, franchement, c'est le truc qui est complètement hilarant et assez hardcore vis-à-vis de la société. C'est une vue assez bizarre, puisqu'en fait, tous les adultes ont un grain. Et ils sont tous avec un regard halluciné et tout ça. Il y en a certains qui font partie d'une secte, il y en a d'autres qui ont tout simplement des obsessions de « je suis le petit chef », donc ils se prennent dans une cour d'école. Le gros problème, c'est que c'est le patron du lycée, ça le fait un peu mal. Et en fait, on se dit que seuls les gosses, finalement, ont réellement un regard adulte sur le monde lui-même. C'est vraiment quelque chose d'étrange et d'allumé. C'est, en tout cas, c'est une BD qui nous avait beaucoup plu de ce côté-là. Donc je ne peux que la conseiller. Bonne nuit Poun Poun, le troisième tome donc de Inio Asano est sorti dans la collection Bikana Shikana il y a un bail. Je suis désolé.
Et une question pour Gio, justement, en tant que dessinateur. Est-ce que toi, tes goûts en matière de BD vont au-delà du genre dans lequel tu dessines? Par exemple, est-ce que tu es attiré
pas
par...
Du
de... Non, pas du tout. Tu n'y que du dessin de presse ou
là,
du...
Je suis désolé, mais alors en BD, la BD, c'est pas mon truc du tout.
D'accord.
Marc Guessant, N-G-U-E-2-7.
Et c'est parce que tu vas pas naturellement là-dessus, et si t'as une BD, tu sais pas quoi faire, tu vas lire ou...
Moi c'est plutôt la BD d'humour et ouais. En musique je me suis arrêté aux Beatles et aux Rolling Stones, et en BD je me suis arrêté à Brett Eschet et à Reiser, donc
D'accord.
Alors j'ai quelque chose avec des dessins qui sont simples.
Il y aura quelqu'un pour me ramener à la maison de retraite.
J'ai quelque chose de le grand bouquin rose, c'est quelque chose qui est pour toi, qui avec du dessin très simple et très facile à comprendre. Ça s'appelle 5 à table, c'est auto-édité, donc c'est chez PHR Édition, l'auteur s'appelle Philippe Rett. Le deuxième tome s'appelle Le Bonheur, donc on l'a reçu et on s'est dit non, c'est quoi ce dessin, et puis la police comicsant et tout ça. Et puis en fait, c'est un problème de lecture, c'est que moi je n'ai pas de gosse, parce que JB a adoré, du sport a adoré,
moi j'ai pas lu.
Ne l'a pas encore lu, mais c'est 3 gosses et des parents qui sont complètement débordés par ces gosses. Et c'est clair que c'est pas le dessin, c'est le dialogue qui fait mouche et la mise en situation. L'art de dire à papa, papa tu joues avec nous, non, là j'ai un rapport à rendre, tout ça pour lui piquer le PC pour pouvoir regarder un DVD. Et ce genre de choses, c'est du comique de situation, c'est assez allumé. Faut quand même, c'est courageux d'abord d'auto-éditer un bouquin en ce moment. En plus, c'est relativement coûteux, surtout que c'est un bouquin cartonné, format 48 pages.
Alors, par contre, je précise à J.O., on ne chronique pas que des BD fuchsia. Hein. Ça, c'est juste.
C'est un concept aujourd'hui.
C'est la deuxième. C'est peut-être la tendance automne-hiver, je sais pas.
Si tu parles dans le micro, ce sera peut-être plus simple.
On l'entend quand même.
mais en tout cas, voilà, c'est un bouquin. Par contre, je ne sais pas comment il est distribué, ça, c'est le gros problème. Après, c'est un livre qui est sympathique et qui est assez fun. Mais je dois dire, c'est plutôt pour les gens justement qui sont pas trop dans la bande dessinée, peut-être qui s'y reconnaîtront par le comique de situation en tant que parent.
Vous n'aimez pas la bande dessinée, achetez la BD. Sing à table.
C'est sympa, surtout qu'il va l'écouter à mon avis l'émission.
Ouais, mais c'est ce que t'es en train de dire.
Ah non, pas du tout.
Ah bon.
Ah mais non, pas du tout. Thomas, toi tu as une bande dessinée de punk qui seront là pour renverser la société par force de la musique.
Yeah. Oui, ça s'appelle The Baser et ça c'est le dernier tome de la série, c'est le 8e, donc c'est un manga français, c'est dessiné par Raph qui vient aussi de la culture du fanzina. Donc c'est sa première série bande dessinée, c'est édité chez Ankama, donc c'est la petite pastille, le dernier riff du manga 100% rock. Alors c'est une BD qui se passe dans le futur, à une époque où le président Patrick Ier, peu soucieux des libertés individuelles, a brimé complètement la liberté de créer, l'indépendance de pensée, etc., des Français, des administrés. Et donc ça se passe dans le futur, dans un monde où c'est la culture musicale est formatée par la multinationale mondiale. Et donc les rares ensuite artistes résistants rock deviennent des raconteurs, et il y a une petite touche de science-fiction dedans, puisque les raconteurs sur scène, en fait, s'ils ont quelque chose à dire et qu'ils sont suffisamment énervés, il y a des rayons qui sortent des guitares. Alors, j'en appelle à ceux qui sont les plus jeunes ici. S'il y en a qui connaissent, j'aime les hologrammes.
Bien sûr.
Ah voilà, donc Sophie, c'est pour ça que je te regardais. Donc, voilà, j'aime les hologrammes, c'est matérialiser le pouvoir musical par des jets de laser. C'est bien pratique pour éloigner les CRS qui veulent interrompre les concerts sauvages.
Ça a l'air
sauvages.
Vachement bien.
Voilà, donc The Baser, c'est de la bande dessinée énervée, puisque ça brille pas forcément par sa finesse, puisque dans chaque case...
J'ai lu le générique. J'ai osé, bon bah vas-y continue.
Oui, c'est les combats Jem contre les Misfits.
Ouais.
C'est contre Universal Music.
Voilà, contre une firme multinationale. Alors, au cours de ces 8 tomes, on a suivi le parcours du groupe des Dubazers, donc qui ont référence aux Pixies, Dubazers.
Je ne comprends rien à ce qu'il dit.
The Baser, c'est un morceau des Pixies. Et,
ramenant à l'hospice, on t'a
J'ai failli.
Et donc, le groupe de musique qui s'est formé avec 4 membres qui sont un peu plus, tous plus énervés les uns que les autres. Il y a le batteur qui est obsédé sexuel, il y a un arrangeur qui est bassiste, il y a le chanteur qui était au départ un dessinateur qui recopiait du manga, mais il dessinait très très mal, il a fallu que quelqu'un lui dise parce qu'il pensait qu'il était super doué pour les dessins. Et la chanteuse Anna, qui est la l'intello du groupe en fait, qui veut échapper absolument au dictat dans le futur qui dit que chaque nana doit se siliconer les seins et ne pas attendre quelque chose de la culture, il faut qu'elle soit une bonne femme, une bonne épouse et tout. Voilà, donc elle veut échapper à ce carcan là et on suit le parcours de ce groupe là qui essaie de se faire connaître. Ils vont à un moment donné signer chez l'ennemi, dans la firme mondiale, pour essayer de se faire connaître un peu plus au sein d'un label un peu fourre-tout, mais ils vont se faire happer et vendre leur âme au diable, et finalement vont être repérés par un mec qui va créer son label musical, et ça va être de la baston par scène interposée pour savoir qui c'est qui sera à même de transporter le plus les foules. Voilà, donc The Baser, c'est une série rock dont le graphisme est c'est vraiment
si
du 100% énervé.
Tu peux tenir
10
minutes de plus là-dessus, du sport est encore en train de chercher producteur de porc, c'est quelque part dans la playlist.
Voilà, donc Raph, jeune dessinatrice qui a dessiné et scénarisé qui a créé donc les 8 tomes de la série The Baser, et voilà le 8e tome qui est sorti, une série que je vous conseille pour ceux qui aiment le rock et on va dire BD de jeunes avec beaucoup 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 de punch dans le dessin, dans le scénario. Voilà, donc on rappelle la référence Raph pour la série en 8 tomes de Baser, c'est édité dans le label 619 dans Kama.
Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Tu me fais signe depuis tout à l'heure.
Ouais, parce qu'on a oublié de parler d'un truc vachement important.
Ah, ouais. Bah oui, mais vas-y.
Ils sont en train de découvrir leur catalogue. Alors là, ils sont arrivés à presque la dernière page. Là.
Vous prenez votre micelle à la page 17. Donc, samedi 22 septembre. De 10h30 à...
C'est Sadi.
Sadi, ouais. De 10h30 à 20h, un spécial Made of Groland, où seront présentés les travaux, les réalisations des différents réalisateurs de l'émission Groland qu'ils ont pu faire quand ils sortent le soir tard de Canal+.
D'accord.
Donc on a des clips, on a des docs, on a des courts-métrages, on a des trucs, et ils seront tous là pour présenter leur travail, et ça peut vraiment intéresser les gens qui veulent pratiquer un jour ce métier.
Et à sandwich et buvette sur place, parce que ça dure quand même pas mal de temps, hein, de 10h30 jusqu'à 20h. Hein,
ils vont pas être
se restaurer, quoi.
Et il y aura quoi ?
Ils sont fermés à clé, ils pourront pas sortir, les gens.
Alors, okay. Est-ce qu'il y aura, parce que moi je l'ai, mais vide la bouteille. Ils avaient brassé, quand le Groland avait été invité au festival d'Angoulême, ils avaient fait brasser une bière par des moines trapézistes.
Trapézistes ?
Ah, oui, oui.
Trapéziste.
Non, trapézistes, oui. Je te montrerai l'étiquette et tout. Est-ce que...
quand ils sont à l'envers, la soutane tombe et on leur voit les couilles, c'est ça l'idée.
Je crois à peu près.
Mais la bouteille vide, tu l'as bu ou tu l'as récupéré
Non, je l'ai bu.
D'accord.
C'est dégoûtant. Du sport,
moi,
c'est pas les producteurs de porc, c'est les porcs. Tu t'es planté dans...
Ah d'accord, ok, ouais.
C'est quoi, tu veux enculer de patron ou enculer ou vendeur de bière?
Non, mais nous un classique là, je sais pas, God Save the Queen ou je sais pas quoi là.
God Save the President.
Voilà.
Non, je l'ai pas.
Ah bon, bah ok, bah.
Vous avez mal fait ton boulot, hein. Ouais.
Vous comprenez pourquoi le move est.
numéro 1 sur la connerie. Ah, ouais,
ah bah, ils en cool. passent souvent des producteurs du pain.
Non, mais ils connaissent les titres.
Du sport, bah tiens, on va peut-être passer à toi. Dis-nous qu'il y a des trucs amusants à la télé.
Mais non, il a une bande dessinée.
Ouais, ah merde, bon, ah oui. Oh putain, oh mais je suis pas sérieux.
Non mais tu fais vite alors par contre.
Ouais, je fais vite. Ok, d'accord. Bah de toute
il
façon,
va nous
en
plus le résumé, alors, la quatrième page. Comme
je vais, attends, excusez-moi, j'en reviens pas parce qu'il y a que de la badoie sur le.
Je vais au
bureau. Et il raconte absolument n'importe quoi avec de la badoie.
Ouais, ouais.
Alors, ouais, je vais... mais il y a eu le café à 6h du mat. Donc...
Ouais, ouais, ouais. Je vais prévenir nos invités. C'est pareil, vous allez comprendre, rien capter à ce que je vais dire à présent. Parce qu'il s'agit quand même du tome numéro 15 de cette saga inénarrable.
Voilà, il a l'habitude de chroniquer
The
chaque
Boys.
Tome, donc il ne fait pas voilà. le... Le retour.
C'est ça. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans les précédents, enfin pas dans le numéro 14, mais surtout dans le numéro 13, puis dans ceux qui précédaient, on en apprend vachement sur la vie personnelle et sur la vie passée des différents intervenants de la bande des petits gars. La bande à Butcher. Mais sauf qu'il en manquait un, c'est le fameux Butcher, justement. Oui. Et bien justement, là, on va apprendre qui est ce fameux Butcher. Et par la même occasion...
Je vais expliquer rapidement à J.O. le principe, c'est tu as une méga corporation qui a inventé un produit qui permet aux gens de devenir des super-héros.
Il y a le résumé, là, dans le...
Voilà. Et donc, c'est l'histoire d'un groupe de la CIA qui essaie de lutter contre les super-héros.
Ça a l'air vachement bien.
Sauf que là, eh bien, on apprend.
C'est Gartenis, ce scénariste, c'est trash.
Je vais acheter les 15 premiers numéros.
Ah, tu peux, hein, tu vas voir. C'est pas mal du tout. Et donc, dans celui-là, on apprend quel est le parcours initiatique, on va dire, de Butcher, ainsi que la création de bande de petits gars. Parce qu'en fait, on retrouve dans ce numéro 15 un personnage qu'on a déjà croisé dans le numéro 13, celui où le petit gars, où petit Yugi était allé se ressourcer un petit peu en Écosse dans son patelin au nom imprononçable avec ses potes à se bourrer la gueule. Et je sais pas si tu te rappelles, mais dans ce numéro 13, quand il va se balader un petit peu pour prendre l'air sur le bord de la falaise, il tombe sur un vieux monsieur anglais. Ou un vieux monsieur qui a une allure très britannique. Or, il s'avère que ce monsieur est très, très, très important. Et ça, vous le saurez dans le numéro 15. Donc, de The Boys, toujours scénarisé par Garth Ennis. Et là, c'est Joel McCrea qui est de retour au dessin. Donc, alors, pas beaucoup de scènes de baston. Pas du tout de super slip dans ce numéro. On les évoque, hein, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de parlottes. Hein. On explique bien les choses. Mais on n'y gagne pas aux chances parce que, c'est toujours aussi violent. Surtout que, ce sont des combats qui sont plus Deuxième Guerre mondiale. On part de la bataille des Ardennes. Puis, on va attaquer du côté...
Très joli, les Ardennes.
Ah ouais. Ouais.
on attaque un
peu plus loin sur la guerre de Corée et ces magnifiques cimetières de Castres.
Très bonne cuisine en Corée.
Bref, ça reste toujours d'un certain goût et ça reste toujours pour un public averti. Donc je rappelle, c'est The Boys numéro 15 qui s'appelle Côte de Barbarie en référence avec la fameuse Barbary Coast. Souvenez-vous, le débarquement 6 juin 44. Et ça a été surnommé par la suite par les Américains la Barbary Coast. La plage de débarquement. Voilà. J'ai fait mon boulot, c'est
et
bon.
Maintenant, tu nous passes biche au ma biche.
Si tu veux, Stéréo Total, vive le week-end, extrait de l'album 12 Bambi. Donc, il y a une biche quand même.
Ah, cool.
Oh, bravo.
La route est bloquée. Tout le monde commence à s'insulter.
Stéréo Total. On va rester rapidement dans le cinéma, mais on va faire un écart avec une actualité, ma foi, assez triste.
Oui, bon, alors on lag un peu, mais il n'y a pas eu de supplément week-end pendant 15 jours, donc ce n'est qu'aujourd'hui qu'on parle de la mort de Tony Scott, qui nous a quittés, c'était fin août.
Tony, si tu nous écoutes.
Vous connaissez Tony Scott,
sérieux,
vous, ou pas?
C'est sérieux.
Vous
connaissez le frère de Ridley.
Oui,
oui,
ouais,
oui.
Voilà, très bien. Ouais.
N'oublions pas que le directeur du Festival de Cannes a dit « ça a été difficile pour lui de se faire un prénom à côté de son frère ».
Non, oui, le...
Sachant qu'il était plus connu que son frère avant, voilà. Oui, il a fait une gaffe monumentale.
Hein ?
Ouais.
Mais non, il a pas dit ça. Il a dit qu'il avait particulièrement aimé son premier film, Les Prédateurs.
Non, il avait dit aussi ça sur Twitter. Il a fait une énorme connerie.
Bon, ok. Bon, toujours est-il que Tony Scott a toujours été moins connu que son frère, ça c'est vrai. Hein, donc,
on devait l'avoir président du jury, mais il a pas pu venir.
Ouais. Eh oui, il a mal négocié un virage. Oui. Alors, donc Tony Scott, son vrai nom Anthony Davis, David Scott, bon, il a fait 21 films dans sa carrière. Beaucoup de gens savent pas, mais il était britannique. Il est mort. Donc c'était le 19 août dernier, à l'âge de 68 ans, il s'est suicidé en se jetant d'un pont en Californie. Alors, outre le fait que, évidemment, c'était le frère cadet de Ridley, il avait 7 ans de moins quand même, ils avaient fait leur début en créant leur société de production de clips et de publicité en Angleterre, et il avait commencé sa carrière aux États-Unis par un film qui est longtemps resté, enfin, qui a pas eu trop de succès au début, mais qui a été réhabilité depuis, qui était Les Prédateurs. Alors, Les Prédateurs, c'est un film avec David Bowie, Catherine Deneuve et Suzanne Sarandon, qui est aussi connue parce que Sarandon et Catherine Deneuve font quelques cochonneries ensemble, avec une esthétique proche des clips de Mylène Farmer, avec pas mal de vapeur
non,
derrière.
C'était l'esthétique qui était propre aux années 80, au début des années 80.
Ouais,
fin
mais
des années 70,
c'est marrant parce que j'ai vu entre temps.
Ça a inondé les clips pendant les années 80.
Oui, une esthétique un peu froide, un peu.
Oui, voilà. Ouais, mais enfin bon, avec.
Ça va très bien.
On dirait que c'est tourné dans un hammam, avec pas mal de lumière. Qui
c'était la technologie
derrière.
Des machines à fumer qui venait.
Voilà, c'est ça. Alors le mec, il fait Les Prédateurs, qui est quand même considéré aujourd'hui comme dans la catégorie des films d'auteur. Hein. Peut-être que c'est parce qu'il y a David Bowie dedans aussi. Mais il faut savoir que 3 ans après, il fait juste l'antithèse, c'est Top Gun. Alors Top Gun, je pense qu'il a. Alors j'ai vu ça dans un article de l'excellent site internet qui s'appelle Capture Mag. Donc CaptureMag.net, qui a été fondé par 4 anciens de Mad Movies, donc Stéphane Moïsakis, Julien Dupuis.
T'éparpilles pas, tu parles d'un film, tu parles pas d'un site.
Ouais. Rafik Djoumi et Arnaud Bordas, qui avaient fait une excellente analyse de la filmo de Tony Scott, et qui avait retrouvé de derrière les fagots une pub qu'il avait faite pour Saab. Où il mettait bien en scène des avions, et c'est sûrement cette pub là qui faisait
un parallèle entre une berline et un avion de combat Saab.
Donc c'était Jerry Bruckheimer qui avait produit Top Gun. Entre temps, Tony Scott, il a fait pas mal de films qui sont restés plus assez connus. Alors je vais pas tous les faire parce qu'on n'a pas trop de temps, mais en tout cas ce qui a relevé de la filmo de Tony Scott. Oui, vas-y. Donc en gros c'est voilà. Donc t'as la musique de Top Gun. Donc c'est évidemment, il y a personne ici, franchement, honnêtement, qui peut dire qu'il n'a pas à un moment donné dénigré Tony Scott en disant ouais bon il est gentil, c'est un petit faiseur dans son coin. Bon il est vachement plus intéressant. Au moins il a fait beaucoup plus de merde, mais il a fait aussi des films plus marquants. Mais par contre Tony Scott, on peut pas dire que c'était un auteur. On peut pas dire qu'il avait quelque chose à dire dans ses films, et quoique. Mais on peut pas dire qu'il ait fait des mauvais films. Bon, il a fait des films efficaces, certains qui étaient moins intéressants que d'autres, comme par exemple Le Fan avec De Niro, où De Niro il incarnait un fan de baseball avec Wesley Snipes. Il a quand même fait des sacrés bons films qu'on a tendance un peu à reléguer dans des coins de la DVD Tech en disant oui, c'est un peu mon péché mignon, j'aime bien me remater Top Gun ou Jour de Tonnerre, ou il a fait aussi True Romance, il a fait Ennemi d'État, USS Alabama, qui étaient quand même des bons films. C'est pas quelqu'un qui avait une vision et qui la défendait coûte que coûte en disant tiens, ça c'est un film de Tony Scott, mais il a quand même fait des super bons films qui étaient vraiment très jouissifs. Le Flic de Beverly Hills 2. Franchement, quand il y a la partie où il y a Billy qui attaque les camions au rang de lance-roquettes, franchement, vous mangez popcorn devant, mais quand il y a cette scène, vous pouvez pas zapper, quoi. Voilà. Donc Tony Scott, voilà, qui a fait dans sa fin de carrière pas mal de choix beaucoup plus radicaux, notamment sur le domino que j'ai que j'ai pas aimé, toi t'as aimé je crois, Domino, cette espèce de
ouais c'est sympa
de
quoi,
clip surcoté géant avec plein de filtres par seconde.
Ouais, mais il faut mettre les lunettes de soleil pour le regarder. C'est ça le truc.
Ah, moi j'avais les cornets qui saignaient à la fin. Ouais. Voilà, avec Keira Knightley dans le rôle titre. Voilà, Tony Scott.
Ouais, on n'est pas comme à Télérama où on flingue aveuglément.
Oui, voilà, il méritait pas qu'on le traîne dans la boue comme l'a fait le journaliste de Télérama. Voilà, je pense que à cette table, il y a.
Défends-toi, Sophie, défends-toi, te laisse pas faire.
En tout cas, il y a
Qui parle. Je ne comprends pas du tout.
D'un papier dans Télérama qui
était. Très bien, t'inquiète.
Tu as vu, c'est. Enfin bon, c'est un peu dommage parce qu'on oublie justement, c'était un clipper, c'était un pubard, comme son frère, mais il a amené une certaine esthétique de ce côté-là dans les scènes d'action. Et il a plutôt bien fait, il a amené quelque chose.
Oui, il a quand même amené quelque chose au niveau technique. C'était un routier, quelqu'un qui faisait. On savait quand on lui confiait un film, c'était.
Plus rapide que lui au cut, il a fallu brancher un synthé sur une régie télé et Gérard Pulicino.
Petit moment de solitude.
Là, je pense qu'il a fait un combo sur les blancs.
Non, mais c'est parce qu'il a envie d'avoir le choix pour la virgule d'introduction la semaine prochaine.
Rassure-moi, juste un truc, l'émission elle est montée après.
Même pas.
Mais non, c'est trop de boulot. Attends, on l'a pas installé tel quel.
Ça va, ouais.
J'espère que le seul auditeur d'FMR est parti faire des courses.
Voilà, donc Tony Scott.
Hein. D'ailleurs, cette émission est podcastée, pour vous le prouver. Alors, nous parlons.
13h17.
François Hollande est toujours vivant.
Et toujours président. Voilà.
Et Nadine Morano n'est pas encore présidente de la République.
Ouf. Alors, voilà tout ce qu'on pouvait dire sur la filmographie de Tony Scott, voilà, qui nous a quitté le 19 août dernier.
C'était vachement bien. On se fait livrer des pizzas ou bien ?
Je ne sais pas, mais tu peux parler, puisque tu as dit on a manqué plein de films et on est à part du cinéma. Et tu parlais d'un film pour les scolaires.
Oui, vous avez passé du Tony Scott à des enfants, c'est ça ?
Spécial Top Gun à Groland.
Oula, là j'ai gros sué qui arrive.
Mais là, je suis en train d'éplucher mon programme. Ils sont où les scolaires ?
Dans le micro.
Pardon, ils sont là les scolaires. Oui, oui, le cratère. L'excellent cinéma, le cratère. Mm-hmm. Où il y aura mardi 18 septembre à 10h et à 14h des séances jeunes publics avec un excellent film qui s'appelle Panique au village, qui est un film est-ce qu'on peut parler de film d'animation?
Oui.
C'est de la pseudo-animation, en fait c'est des petits personnages en pas en pâte modelée mais en genre soldats de plomb qui sont
C'est du stop motion, c'est de l'animation.
Voilà, c'est ça. Donc c'est de l'animation et c'est hyper bien fait avec les voix de Benoît Poelvoorde entre autres.
Oui, c'est un Belge qui fait ça.
Oui, oui, c'est très pour les enfants et c'est très 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 beaucoup pour les adultes aussi.
Ils sont.
Et donc c'est la caisse des écoles qui est un peu derrière cette affaire là et qui nous fournit en scolaire. et ça sera, c'est quand même important de le dire, ça sera présenté par Noël Godin.
Donc, l'ambiance dans la salle, elle va pas être.
Donc les mouflés auront beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance.
Ouais. Les mouflés, ils ont intérêt à se tenir à carreau parce que les tartes.
Les tartes vont pleuvoir.
On avait dit qu'on en finissait avec les châtiments.
J'accompagnerai Noël Godin à cette séance et c'est un très, très bon film.
Et donc vous allez expliquer comment on fait un film aussi, comment le film a été réalisé.
Ah, je sais pas du tout comment il va expliquer son truc. C'est lui qui va faire ça. Il sera dans l'impro total. Le matin quand même. J'espère. Enfin, il aura peut-être un croissant dans le cornet.
Oh non, vous ne pouvez pas. Non. Sur l'ensemble de la filmo, parce qu'il y a 44 films, on va pas donc tout citer, mais effectivement, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Donc il y a la trilogie, puisqu'il y a trois réalisateurs qui sont mis en avant. Et qu'est-ce qu'il fout là, Monsieur Oiseau, d'ailleurs ?
Quoi ?
Quentin Dupieux.
Oui. Quentin Dupieux.
Pourquoi ça se prend ?
Pourquoi qu'est-ce qu'il fout là ?
Et ben c'est vachement bien ce qu'il a fait.
Quoi, tu veux dire sa pub géante pour Michelin ?
Non, il a fait pas. Là, c'est une trilogie. C'est une trilogie on l'a visionné il y a deux jours. On était tous pliés de rire sur le canapé. Tu vois, C'est à pas manquer, c'est totalement décalé, c'est une espèce d'humour absurde, british. Il me tarde vraiment de rencontrer le bonhomme parce que vraiment on s'est régalé.
Il est très fort. Du sport, on the téloche, et pas que sur la 4 s'il te plaît.
Ah bah non, pas que sur la 4, et j'ai d'ailleurs, je commence cette rubrique en poussant une grosse gueulante parce que on a pu le western du samedi soir sur RTL9. C'est une honte. Remarque, c'est remplacé
Sam
par...
Sam Peckinpah, si tu nous écoutes.
Ouais, c'est remplacé par Désigné pour mourir. Un petit Steven Seagal, pas dégueulasse.
Ah,
donc,
mais non, mais j'ai cherché perdant, cette semaine, il n'y en avait pas de
Steven. J'avais lu une critique sur un film avec Steven Seagal qui disait Steven Seagal totalement dispensable.
Ouais, ouais, mais oui, il y en a plein. Hein.
Ah, mais il y en a plein, oui.
Ouais, ouais.
Non, mais c'est le nom de son prochain film,
ensuite,
d'ailleurs.
Ensuite, sur AB1, on connaissait Daniel Baldwin.
Dispendable.
Daniel Baldwin, c'est l'acteur. Ben, on ne connaissait pas ses talents de réalisateur. Il nous l'éprouve dans du tunnel.
Alors Daniel, c'est lequel? C'est celui
Daniel...
qui jouait dans Sliver ou
Daniel,
dans Au Jeu Suspect?
Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre.
Ils sont quatre.
C'est Stéphane qui
joue
dans...
C'est de la badoua qui est sur la table.
C'est Stéphane qui joue dans Au Jeu Suspect.
Alors Daniel, c'est celui qui couche avec Sharon Stone dans Sliver.
Ouais.
Et qui joue dans Fur Game avec Sidney Crawford.
Non, ça c'est oui. Oui.
Parce qu'il y a William aussi.
Oui, oui. Oui, c'est lui, Daniel.
Linda Lovelace, il fait des trucs.
Oui, oui, c'est lui, Daniel. Donc avec Kim Coates et une histoire de tuer, tout simplement. Sinon sur TCM, un très grand western, pour remplacer celui de RTL 9, c'est L'Aventurier du Texas de Bud Buttiger.
Je peux taper une seconde.
Oui, oui.
C'est des trucs qui sont coupés par la pub, ça.
Oui.
Bon, ouais. Donne-nous des programmes qui sont pas coupés par la pub.
Justement, TCM, donc L'Aventurier du Texas avec Randolph Scott, Craig Stevens et Barry Kelly. Excellent, vraiment excellent. Sinon,
il y a une belle
action,
tête de républicain, Randolph Scott, quand même.
Pratiquement tous, de toute façon, quoi.
C'est pas faux.
Ouais.
Ouais,
sur action, à 20h40, Rome enquête criminelle. C'est la version italienne de New York enquête criminelle ou de la version française de Paris enquête criminelle qui avec Vincent Perez. Donc, et là, il s'agit des Italiens avec un couple composé de Massimo Gini et Luisa Ranieri. Tu crois que c'est la femme de l'entraîneur?
C'est un préquel de Mufflin enquête criminelle, c'est ça?
Exactement.
Ouais, mais attention, filmer à Rome, ça doit pas être mal, quoi.
Ouais. Dimanche, demain soir, sur Arte à 20h40, la théma c'est le tabac. Et donc, il nous propose l'excellent film de Jason Reitman, qui est le fils de
Yvan.
Exactement. Thank You for Smoking. Avec Aaron Eckhart, Cathy Holmes, Maria Bello, Sam Elliott. Ou un film où on te montre que même dans un film, t'arrives même à faire à peu près jouer bien Cathy Holmes. Ça existe. Ça peut le faire, quoi. Tu vois, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a Aaron Eckhart aussi, quoi. Sinon.
Mais ils auraient pu passer aussi Révélation de Michael Mann.
Oui, oui, mais bon. Celui-là est plus ancien.
Il y a un autre film, je crois. Il y a plein de super films, quoi. Demain, on va être mal. On n'aura jamais assez d'enregistreurs.
Sur TMC, demain soir, 20h45, c'est la deuxième saison inédite de Downton Abbey. Donc, d'accord, ok. Et sur FX, on continue avec la Tortue Volante.
Non, c'est les derniers.
Gamera, oui, on continue, c'est pour ça, j'ai dit Gamera, la revanche d'Iris à 21h, suivi de Gamera, l'héroïque, mais qui est un petit peu plus ancien. Mais ça, c'est déjà une rediffusion. Lundi sur Arte. Il nous passe quelques Werner Herzog en ce moment, alors on va pas se prier surtout de ce Nosferatu fantôme de la nuit. Alors le film est considéré comme culte, mais en fait quand il est sorti il a pas tellement été apprécié. C'est vrai que il était un petit peu froid, on ressentait pas trop le
toujours
feeling.
L'esthétique des années 80.
78 hein, de
c'est avec Adjani,
78
ça.
Mais alors il y a un casting qui tue, de l'enfer de la mort, Kinski, Adjani, Bruno Gantz, Jacques Dufilho, Roland Topor. Bref, ça va quoi, c'est assez intéressant plus. Comme ça. Enfin bon, on s'y retrouve pas trop quoi quand même. Lundi spécial, toujours spécial Wesley Snipes avec sur W9 tout d'abord un bon film. Si, il en a fait.
Oui, on a fait.
Il y a une interrogation.
Soleil Levant de Philippe Kaufman avec Sean Connery, Ray Wise, Kari Hiroyuki Tagawa. Donc il n'y a pas de problème.
Je trouve que le roman est bien mieux que le film, bizarrement.
Ouais, mais le film est bien quand même.
L'entracte aussi est bien.
Suivi de Hard Luck de Mario Van Peebles en 2006. Alors là, tu te dis
rien
déjà.
Que le nom, ça fait saliver.
Avec donc Wesley Snipes, Sybil Shepherd. Donc,
oui,
d'accord,
oui,
ok.
Oui.
Claire de Lune.
Ouais, c'était Madame Bruce Willis.
Tony, voilà, tout à fait. Et sur Energy 12 aussi, on peut voir un petit peu de Wesley Snipes avec le Game of Death de Giorgio Serafini. Ça, c'est très très récent.
Oui, c'est Energy 12, c'est une chaîne qui coupe les films.
Tout à fait,
la pub,
tout
d'accord.
à fait. Avec Zoé Bell, Robert Davi, Gary Daniels, un. Donc, ça peut le faire. Et sinon, sur Syfy, rediffusion de l'inénarrable Malibu Shark Attack de David Lister avec Peta Wilson et René Bowen. Rappelez-vous,
je vais l'acheter.
Ce tsunami qui ravage la plage de Malibu et qui provoque un tremblement de terre et qui réveille des requins préhistoriques. Il faut quand même le faire.
Ils le font. Sinon, dans notre festival, on peut pas le faire.
T'as passé notre festival quand même.
Non, mais attends, je te rappelle qu'on a Extrême Cinéma pour les Cornman quand même.
Ou sur Action, toujours lundi à 20h40, Ichi, la femme samouraï, là c'est un peu plus sérieux, donc de Fumihiro Sori avec Haruka Ayase et Shido Nakamura. Mardi sur Direct Star, deux bonnes bouses. Tout d'abord, c'est une météorite qui menace la Terre dans Judgment Day, John Terleski, qui est un spécialiste des épisodes télé, on va dire. C'est un bon faiseur, le mec qui travaille sur des franchises. C'est un réalisateur éprouvé. Là, de temps en temps, on lui file quelques cacahuètes en lui disant « Tiens, réalise ton téléfilm, mon gars. » Et donc, là, c'est avec Ice-T, avec Mario Van Peebles, avec Coolio, Lyndon Ashby, Suzy Amis.
Ah ouais, quand même.
Bref, ouais, tu vois, ces mecs-là qui vont sauver la Terre de la météorite.
Ah merde.
Coolio. Eh ouais, je sais.
Juste... On a une otarie dans le studio là.
Non, juste avant que Marc Dacascos à 22h15 sauve le monde d'une alerte solaire qui va exploser. Donc un film de Paul Ziller avec
une
alerte solaire avec Marc Dacascos et Joanne
Kelly.
J'aime bien
parce qu'il bouge le mot, tu devines le truc.
Ensuite, on a également un petit polar mardi de Don Siegel, un polar anglais. Il a fait des films en Angleterre également avec bien entendu des gens du cru. Ça s'appelle Contre une poignée de diamants avec Michael Caine, Donald Pleasance, John Vernon et Paul Moss. Mercredi sur Paris Première, pour ceux qui l'ont pas encore vu, rediffusion des Jesse Stone, les téléfilms avec Tom Selleck.
Absolument. Sinon, fabuleux. Si vous avez été déçu par les Bleus, par la série là qui était passée sur M6, oubliez-la, parce que ça sont des putains de téléfilms.
Ouais, c'est pas mal. Sur Syfy, Bienvenue à Zombieland, qui est sympathique, agréable
c'est
à regarder
sympa,
et tout
ça.
Quoi.
Ouais.
Hein, avec Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone. Emma Stone, c'est la caution un petit peu bimbo, on va le dire. Hein. Jesse Eisenberg, c'est le jeune con un petit peu écervelé. Et Woody Harrelson, c'est le mec complètement à la masse et tout, quoi. Woody Harrelson,
c'est très bien. Ça devrait être culte, ce film.
Oui, il est pas mal, il est sympa et tout, quoi. C'est vrai qu'il est assez sympa. Et
la scène où ils arrivent à Hollywood, là, dans le. Il n'y a plus que des zombies, ils se réfugient dans la maison de...
Moi, une des scènes préférées, c'est celle où il y a quand ils ont le camion et que le mec il veut bouffer des barres de chocolat. Enfin, je trouve que c'est une des meilleures scènes de toute façon, quoi. Bref, c'est donc Bienvenue à Zombieland, c'est mardi prochain à 20h45 et Syfy vous passe quelques petits Carpenters et donc après c'est The Thing.
Carpenter,
Kurt Russell, donc pas de problème. Ciné Plus, premier mercredi propose l'Agence Touriste, le film de Carnan.
Ah, il y a une scène extraordinaire dans ce film.
Oui.
C'est comment faire tomber un char d'assaut d'un avion sans parachute et pas s'écraser.
Oui, alors je vois la scène et je sais plus comment il atterrit.
Eh ben, il tire.
Ah oui, ouais.
Il dirige le canon parce que évidemment le tank tombe vraiment, il bouge pas, tu vois, c'est la physique. Et le mec, il a pas tout compris Newton quand il a écrit son scénar. Et en fait, il tire, et à chaque fois qu'il tire, avec le recul, bien sûr, madame, avec le recul, le truc remonte, le char remonte en fait.
Oui.
Voilà. N'en essayez pas chez vous, ça ne marche pas.
Alors,
famille militaire, si tu nous écoutes.
Allez, j'en reviens à cette sélection télé avec mercredi, toujours sur Orange Ciné Choc, Bronson.
Ah oui.
De Winding Refn, donc rien à dire avec Tom Hardy. Et sur Orange Ciné Géant, Le Cavalier du Crépuscule de Daniel Webb en 56. Le premier rôle, le titre original, c'est Love Me Tender avec Elvis Presley, Debra Paget et Richard Reagan. Alors c'est l'histoire de Clint Reno. Clint, c'est le petit frère de Vance Reno. Mais Vance Reno est parti faire la guerre avec les Confédérés. Et quand il revient, eh bien, le petit frère Clint Reno, il s'est marié avec la jeune belle qui était promise. compromis avance. Donc ça va être le bordel dans la famille. Et donc les parents ils vont essayer de remettre ça et tout quoi, pour que ce soit pas trop le bordel. Parce que bah il y a pas beaucoup de choses. C'est ça le Cavalier du Crépuscule. C'est le premier rôle d'Elvis Presley au cinéma, donc en 56, qui était suivi l'année suivante par Amour Frénétique, film fameux dans lequel il s'appelle Dick Rivers. Eh oui, ah ouais. Ça, alors donc ça c'est jeudi, mercredi prochain à 20h40 sur le sur Orange Ciné Géant. Jeudi 13ème rue, propos de Terminal Velocity.
Bon Charlie
petit
Sheen,
film, Charlie Sheen, Natasha Kinski, James Gandolfini, c'est un bon petit film d'action rigolo. Direct Star vous propose à 20h40 Enfermé dehors d'Albert Dupontel, excellent, suivi de à 22h15 Le Poulpe de Guillaume Niclou, qui est pas mal sympathique, avec une fois que c'est au moins un film où tu as Daroussin qui prend pas l'accent marseillais, donc c'est déjà une bonne chose.
D'ailleurs là,
et puis en ce moment c'est pas le moment pour le prendre.
Clotilde Courau à poil, donc c'est une autre bonne chose dans le film.
Oui, Clotilde Courau à poil, je m'en souviens très bien. Elle incarne une lesbienne, je crois, dedans.
Ouais, mais
alors,
pas
je comprends
que...
avec un autre non, film, non, non, mais non. Y a la tagline du film, c'était le poulpe, pour l'attendrir, il faut taper dessus.
Ouais, c'est ça, ouais. Alors, jeudi prochain également sur Sci-Fi à 20h45, Alerte Collision, toujours du même Paul Ziller, hein, lui spécialisé dans ce genre de truc, avec Kirk Acevedo et Debra Farr. Alors là,
en fait, ça
là j'ai noté
avant
carrément.
Ou après la météorite
Non, après la météorite.
Ah, donc on est la fin du film précédent.
Eh ouais. Mais là, ça va être un petit peu galère, parce que là, c'est une histoire où la Terre est menacée depuis qu'une comète entrée en collision avec le Soleil a éjecté Mercure de sa trajectoire.
Finesse,
il faut le faire, ils l'ont fait.
Il y a vraiment des problèmes de cours de physique élémentaire à Hollywood. Hein.
On a déjà du mal à foutre les Roumains dehors, si en plus c'est les Mercuriens qui s'y mettent.
Jeudi toujours dans Ciné Plus Club à 20h40.
Emmanuel Valls, si tu nous écoutes.
À 20h40, Ciné Plus Club, Le Sexe qui parle de Claude Mulot. L'histoire d'une nana qui, un soir, elle arrive au pieu et puis elle parle, à place de parler avec la bouche, c'est son sexe qui parle et qui lui raconte l'histoire à son mec, toute son histoire depuis son enfance et tout, c'est assez rigolo. Avec Pénélope Lamour, Jean-Louis Philippe, il y a beaucoup de jeunes filles dénudées dans le film, il faut préciser. Béatrice Arnois et Sylvia Bourdon.
Tous les sexes des filles commencent à parler
Non, il y a un seul.
C'était un film, c'est la période des années 70, libéré et tout, voilà, c'est le truc troufa.
C'est du moins 16 et les plus vieux d'entre vous ont reconnu Béatrice Arnois et Sylvia Bourdon.
Elle parle pas la bouche pleine.
En tant qu'actrice porno de ces époques-là.
Pas reconnu.
Eh oui. TCM vous propose toujours jeudi prochain 22h30 règlement de compte de Fritz Lang. Là, c'est vraiment de truc à l'autre.
Quoi. Ah, il est bien. Celui-là.
En 53, Glenn Ford, Gloria Graham et James Coburn qui se fait casser la gueule en beauté par Glenn Ford à la fin. Et sur FX, Kinatai, un film philippin de Briante Mendoza avec Martin Cabral et Claudie Martin. Vendredi, j'en termine avec vendredi, RTL9 vous propose à 22h30 Mulan, la guerrière légendaire. Mais il ne s'agit pas du film d'animation, il s'agit de l'histoire un peu plus réaliste, on va dire. Et c'est les Chinois qui le font, ils se sont mis à deux carrément. Et Jingle Ma, connu quand même, quoi. Et Dong Wei, qui donc retrace l'aventure de cette Mulan qui a vraiment existé. Donc,
mais qui n'avait pas de petit dragon pour lui parler, hein,
non, il n'y avait pas de petit dragon. Sinon, sur TCM, après Le Guépard, donc à 20h40, mais alors le film il dure 3 heures quand même, quoi. Mais si vous ne l'avez pas vu, ça vaut le coup de le voir quand même. Il y a Les Desperados de Charles Vidor en 43 avec Randolph Scott, Glenn Ford, Claire Trevor et Evelyn Case. Et sur la chaîne Polar, vendredi prochain, Police sur la ville de Don Siegel en 68 avec Richard Widmark, Henry Fonda, Inger Stevens et Harry Gardino. Sur la chaîne Action, on a Le Jour des Apaches de Jerry Thorpe avec Glenn Ford et Arthur Kennedy. Et enfin, sur Orange Cinéapi, on a un Robin des Bois où il n'y a pas Bryan Adams qui chante dedans. Et pourtant, le film est sorti la même année.
Ah ouais ?
En 91. C'est le film canadien de John Irvine avec Patrick Bergin dans le rôle titre de Robin des Bois, avec Uma Thurman dans le rôle de... Edward Fox et tout. Bref, il y a plein d'acteurs anglais des acteurs canadiens qui sont pas trop connus. Et ce Robin des Bois est vachement mieux parce que vachement plus réaliste que le Robin des Bois de Kevin Costner.
Au Canada, les bois sont plus grands, forcément.
Là, surtout que c'est du rentre-dedans, quoi. C'est pas pour les petits.
Robin des Bois.
Voilà, et ce sera donc le dernier film. Donc je rappelle, c'est sur Orange Ciné Happy
Tabernacle
vendredi prochain, Robin des Bois de John Irvine.
Tu vois, Gio, C'est pour ça qu'on vous a pas filé de blé pour le festival, c'est qu'on a des lampes, on a même pas de quoi payer l'électricité ici.
C'est vrai, parce qu'il y a une lampe qui clignote depuis tout à l'heure, c'est très
énervant. Assez désagréable pour réaliser.
Je croyais que c'était l'auditeur qui appelait.
Non.
En fait, il est toujours pas rentré de faire ses courses.
Ouais, tout à fait, à peu près.
Non, mais il est resté scotché sur le parking du supermarché dans sa bagnole à écouter. Il en peut plus.
Ça, voilà, c'est un clin d'œil en fait à celui qui fait l'émission cinéma du mardi, Bruce, puisqu'il nous écoute en fait quand il fait les courses. Voilà, c'est véridique. Nous avions donc Gio et Sophie sur le plateau pour leur gagner en tant que co-organisateur du Fifi Gros, le festival international du film Groslandais de Toulouse, dont la première édition aura lieu du 17 au 23 septembre. Si il y a un film sur lequel vous vous dites non mais je sais j'ai beaucoup de boulot etc, mais celui-là je veux le voir en salle.
Alors moi j'avais pas failli poser la question tout à l'heure, mais je me suis dit c'est une question trop attendue, mais je te remercie de la poser à ma place.
C'est pour essayer de conclure.
C'est vrai qu'elle est un peu attendue.
Voilà, donc à part faire tomber les micros, voilà.
Il y avait du mal avec le micro aujourd'hui. Hein.
Ah ouais, non mais c'est ouais, c'est pas le mot. Ouais,
qui c'est qui a mis un micro là?
Donc s'il y a un film qui vous que vous avez envie d'aller voir.
C'est très très difficile parce qu'il y en a vraiment beaucoup de très très bons. Il y en a deux que j'aurais envie de voir en salle. C'est Arrivé près de chez vous, et Altra.
Et Sophie?
Et moi, j'avoue que dans les inédits, qui ne sont pas encore sortis, celui dont on parlait tout à l'heure, de Solveig Anspach, Queen of Montreuil, j'ai bien envie. Très bons échos dessus.
Bon, en tout cas,
là, je l'ai vu il y a un mois, il est vraiment très très bien.
Merci d'être venu. Donc, c'était le supplément week-end numéro 321 du samedi 8 septembre 2012, où on avait en plus sur le plateau une journaliste de Télérama.
JB, non. Si tu nous écoutes.
Elle dit non,
là. C'est fini de chambrer quand même là-dessus. Mais il y en a qui arrivent, tu sais, en cours d'émission comme ça, ou qui écoutent le podcast en diagonale, et ils ont loupé en fait, des choses sûrement essentielles. Enfin, je sais pas. Thomas, qu'est-ce que t'as retenu de cette émission? Peux-tu nous faire un résumé?
Rien. Non, j'ai rien marqué.
D'accord.
Je crois qu'apparaît par nos invités. Comme des gros manches, on n'écrit rien.
Nom d'une enfant, vous avez rien manqué en fait, voilà. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission, mais aussi les précédentes, nos chroniques écrites, les références, notamment vers le site vers a-cote.org, nos chroniques écrites, laissez vos commentaires, posez vos questions, n'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web de l'émission, supplémentweekend.fr, sans accent ni tiré, supplémentweekend.fr. Vous écoutez FMR sur 89,1 mégacycle. Nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM et en continu sur www.radio-fmr.net. On est aussi présent d'ailleurs sur les Orange et Freebox en continu d'ailleurs si vous pouvez nous écouter. Dans le prochain épisode.
Eh bien, le prochain épisode, on va changer complètement de genre puisqu'on va faire une spéciale Expendables.
Ce sera des gros bras en pré-retraite.
Du couillu, du burné, du tatoué, de la tête de mort, des explosions et des morts.
Super, magnifique. On se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Ciao à vous, bye bye. Non, là, en fait, on fait pas tomber les micros, on tasse professionnellement nos feuilles puisqu'il y a le plan général.